abordons maintenant le problème de la sécurité.
Mmh.
Quelles sont vos propositions?
Alors, moi je suis enseignante. Et je sais qu'avec les enfants ou avec les jeunes et avec les gens en général, on va pas tout résoudre par la répression. Il y a un travail en amont qui doit se faire, un travail de communication et de présence sur le terrain. Je sais que la municipalité a installé des caméras de vidéosurveillance qui vont bientôt être mises en service dans les semaines à venir. Le problème des vidéosurveillances, c'est qu'elles servent surtout à verbaliser après coup. Donc, c'est pas de la prévention. Si des trafics doivent se faire, ils se feront. Les personnes qui ont envie d'enfreindre les règles, ça, vous se trouve les caméras de surveillance. Hein, donc, c'est très simple, on déplace juste le problème. Et déplacer le problème, ce n'est pas le résoudre. Donc, il faut essayer d'obtenir du département des moyens en éducateurs spécialisés, parce que c'est un vrai travail qui nécessite des compétences et des connaissances que je n'ai pas, parce que je ne suis pas éducatrice spécialisée. Hein. Et il faut qu'on passe appel à des professionnels et qu'on renforce des actions de prévention et de médiation. Et le meilleur moyen d'obtenir des résultats, c'est être au plus proche de la population, d'être présent. Bien évidemment qu'il va falloir aussi augmenter les effectifs de la police municipale, puisqu'on a eu, comme je l'ai dit tout à l'heure, une augmentation démographique de la population. Et il est normal que les agents municipaux, qu'ils soient de la police ou même de la voirie et des services techniques, ben, voient leur effectif augmenter proportionnellement au nombre d'habitants dans Persan.
Renforcer les actions de prévention, il s'agit de donner des nouveaux moyens à Image, anciennement la Bulle.
Ah, c'était une très belle association, en effet.
En effet.
Il faudrait revoir des associations telles que celle-ci sur le secteur. Et elle faisait un travail formidable et c'est dommage, en effet, que ça ne perdure pas.
On parle maintenant de votre deuxième engagement, mm-hmm. qui est que Persan devienne une ville qui innove et va de l'avant. Mm-hmm. Vos propositions concernent la formation scolaire et professionnelle, la dynamisation de l'emploi et des commerces, avec également l'objectif que Persan devienne une ville sportive et vivante. Comment, par quelles mesures et quelles initiatives?
Alors, il faut savoir que sur Persan, on a beaucoup de jeunes talents, que ce soit des jeunes talents artistiques, sportifs. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est valoriser ces jeunes talents. Et c'est comme ça que Persan va pouvoir rayonner. Donc, on a un conservatoire. Mais comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de jeunes persanais se sentent exclus du conservatoire. Alors, peut-être à tort, en effet, mais en tout cas, c'est le ressenti qui en est... Enfin, c'est ce qu'on a pu remarquer lors de nos porte-à-porte. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est le rendre plus accessible. On a une très belle salle de concert qui est sous-utilisée, qui est très peu utilisée. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est vraiment l'ouvrir à nos artistes persanais, leur permettre d'avoir un lieu où on puisse enregistrer, travailler. Des lieux comme ça où les jeunes aient envie d'aller, en fait.
Vous parlez de la salle Marcel Cachin ?
Non, pas spécialement. Elle n'est pas adaptée pour ce genre de choses. Non, je parlais de la salle de spectacle du conservatoire. On a une très belle salle de spectacle. Mmh. Et puis donner accès à des salles de travail, en fait, pour les jeunes persanais, dans lesquelles les groupes peuvent se réunir pour travailler leurs textes, pour réfléchir à ce qu'ils ont envie de produire. Et pareil pour les artistes peintres, parce qu'on en a aussi sur Persan. On a toutes sortes d'artistes sur Persan, des musiciens, des dessinateurs, des peintres, et l'idée c'est de trouver un lieu dans lequel on puisse venir en réservant une salle, en disant j'ai besoin de réserver cette salle pour travailler, pour répéter, pour écrire avec les personnes qui composent avec moi, de pouvoir exposer quand on est artiste peintre par exemple, pouvoir exposer ses œuvres. Et c'est pas facile quand on est artiste peintre d'évoluer et de se faire reconnaître. Hein. Donc l'idée, c'est d'accompagner et d'aider le mieux possible tous ces artistes. Et en ce qui concerne le sport, pareil, on a énormément de sportifs persanais qui vont ailleurs. Qui vont ailleurs parce qu'ils ne trouvent pas ici l'épanouissement qui leur permettent de grandir de manière sportive, en fait. Donc oui, il y a le complexe sportif qui n'est pas... le gymnase qui n'est plus assez grand pour accueillir toutes les associations et tous les jeunes sportifs. Et l'idée, c'est aussi de construire un complexe sportif. Et je crois que les trois listes ont ce même projet. Donc ça me réjouit de savoir que quoi qu'il arrive, donc normalement, même si nous ne sommes pas élus, ce complexe sportif devrait voir le jour.
quelles sont vos propositions concernant la formation scolaire et professionnelle?
Ah oui, c'est vrai.
L'emploi et le développement du commerce.
D'accord. Donc, en ce qui concerne la formation scolaire et professionnelle, donc au niveau des écoles, nous, ce qu'on souhaite, c'est mettre à niveau les dotations, parce que je ne vais pas non plus critiquer le travail de M. Casse. Hein. Il y a des écoles qui sont très bien dotées, mais il y en a d'autres qui le sont un petit peu moins. Donc, ça, c'est le retour des parents qui ont comparé, en effet, les écoles. Et on souhaite, c'est pour ça, mettre à niveau les équipements. En ce qui concerne la formation professionnelle, nous souhaitons créer un forum des métiers et des stages, en recherche de stages. Donc ce serait un forum tel que le font certaines écoles ou certains lycées pour présenter leur formation professionnelle, mais qui se ferait à grande échelle en invitant des établissements de la région et d'Île-de-France et du département. Et organiser, par exemple, à la salle Marcel Cachin, un très grand forum annuel des métiers qui se ferait avant les inscriptions, justement, dans ces écoles. Et on inviterait également des entreprises qui pourront présenter des métiers qui sont parfois méconnus, des gens, des jeunes. Il y a tellement de métiers qu'on ne connaît pas. Donc l'idée, c'est de présenter ces métiers-là et de permettre à chacun de trouver sa voie. Ça, c'est pour ce qui est de la formation professionnelle. Et je crois que vous aviez une troisième question.
Oui, ça concerne l'emploi, développement de l'emploi.
D'accord. Nous, on voulait proposer en fait aux entreprises...
Et des commerces. Hein, et
oui,
du
c'est
commerce,
ça. C'est ça. Nous souhaitons proposer aux entreprises qui s'installent des conventions d'objectifs pour l'embauche des personnes nées. Nous voulons aussi favoriser la plantation de commerces de proximité, puisque sur Persan, ce que nous avons en majorité, c'est de la restauration rapide. Donc, on a vu deux restaurants... qui ont vu le jour ces dernières années, qui sont très intéressants, c'est la table méditerranéenne et puis le pied dans l'eau juste à côté des bords de l'Oise, où là on a des restaurants qui ne sont pas de la restauration rapide, où on a des lieux assez familiaux, où les gens peuvent se poser en famille. Donc ça change et ça, on est très heureuse de voir ce genre de commerce se développer. Mais pareil, pour le type de commerce qu'on voudrait voir installé en centre-ville, ça se fera avec les personnes, à la demande des personnes, à savoir quels sont les manques, quelles sont les demandes, et en fonction de ce qui est demandé, de ce qui est nécessaire et de ce qui manque sur Persan, on favorisera l'implantation de ce type d'entreprise. Est-ce que j'ai répondu à votre question?
Oui, mais j'ai une autre question. Oui. Vous proposez aux entreprises qui s'installent des conventions d'objectifs. Mm-hmm. De quoi s'agit-il?
Eh bien, l'objectif, c'est l'objectif de l'embauche de personnes. C'est-à-dire que quand une entreprise souhaite s'installer sur notre territoire, nous souhaitons discuter avec elle des conditions dans lesquelles ça peut se faire. Nous allons les aider, quitte à parce qu'il y a beaucoup de locaux qui sont vides. Hein, donc il y a des locaux qui peuvent être... on peut mettre à disposition des locaux municipaux à tarif intéressant en contrepartie de l'embauche de personnes. L'idée, c'est de favoriser l'emploi local.
Vous souhaitez également favoriser des projets d'économie sociale et solidaire.
Oui, ça c'est hyper important. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société de surconsommation. Et je trouve qu'il est important de redonner une seconde vie aux objets. Et je pense qu'il y a, quelque chose à faire de ce côté-ci. Donc là, on va appeler des gens qui auraient envie hein, d'investir ce type de projet, de coopérative. Donc on fait un appel à projet hein, pour le coup. Et on souhaite soutenir en fait les personnes qui voudraient porter ce type de projet et qui pourraient créer une coopérative ou une ressourcerie sur Persan avec la mise à disposition d'un local municipal et permettre aux Persanais, aux Persanaises et puis aux gens des autres communes de venir et acheter des produits qui ont été recyclés, retravaillés, modifiés, qui ont été récupérés et à qui on a donné une seconde vie et puis aussi un lieu où on pourrait venir déposer des objets qu'on n'utilise plus afin de leur donner une seconde vie. Ça pourrait être aussi un lieu d'échange mais aussi un lieu convivial où les gens pourraient aussi bricoler ensemble sur certains objets, certaines marchandises pour lesquelles on voudrait donner cette seconde vie.
Et concernant les ZAC, des projets?
La ZAC du chemin Herbu?
Oui.
Oui. Alors, il faut savoir que cette ZAC, c'est un projet de M. Bazin qui date de plusieurs années. Donc, évidemment, Persan en commun est contre les destructions de terres agricoles. Donc, on n'accueille pas favorablement ce projet, mais ça, c'est depuis des années, hein, c'est pas nouveau. Je l'avais aussi dénoncé en 2017 lors de la campagne des législatives. Donc c'est quelque chose contre lequel on continuera de se battre. Maintenant, ce qui m'inquiète le plus, c'est que cette ZAC qui va voir le jour va se faire à 40 mètres des habitations. En effet, ce n'est pas une ZAC classée Céveso, contrairement à ce qu'il a pu courir. Enfin, il y a des bruits qui ont couru dans Persan que ce serait une entreprise classée Céveso, mais ce n'est pas le cas. Maintenant, il faut savoir qu'il y a eu une enquête publique en 2018, si je ne me trompe pas, ou 2019. Il y a eu aussi un arrêté préfectoral en décembre 2019 qui donne l'autorisation de l'installation de cette entreprise. Maintenant, ce qui se passe, c'est que les Persanais là se réveillent et se disent « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est dangereux, on n'en veut pas pour notre ville. » Donc, mais ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir l'implication des Persanais dans les décisions. Si au départ, la municipalité, qui a fait son travail d'un point de vue légal, il y a eu les affichages réglementaires, il y a eu une enquête publique qui a été demandée, donc elle a fait son travail. Mais je pense qu'il faut aller au-delà. Si on avait à ce moment-là interpellé les citoyens, qu'on les avait invités à des réunions, qu'on avait fait lors des comités de quartier, puisque... il y a des réunions de comité de quartier qui ont été mises en place sur le dernier mandat. Si pendant ces réunions, on avait abordé le sujet, on avait demandé aux citoyens ce qu'ils en pensaient, on avait fait un référendum auprès des gens du quartier, tout de suite, on aurait vu que ce projet n'avait pas l'approbation des Persanais et on aurait gagné énormément de temps. Donc là, ce projet, il a été adopté, il a été aussi voté en conseil municipal. Conseil municipal pour lequel, je tiens à le souligner, l'équipe de M. Lombard, lui, n'était pas encore élu à cette époque-là, mais les membres de son équipe qui sont sur sa liste se sont abstenus et n'ont pas voté contre. Si on avait, à ce moment-là, alerté les citoyens, on ne serait pas dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, à savoir essayer d'arrêter une machine qui est en route et qui va être très difficile, en effet, à arrêter.
Votre troisième engagement est que Persan devienne une ville qui rassemble et s'engage. Je vous cite, pour vous et avec ses habitants, pour le mieux vivre ensemble en faveur du logement. Comment comptez-vous mettre en place une démocratie locale participative? Avec quels moyens? Dans quel cadre et sur quel thème?
Alors, j'ai envie de dire sur tous les thèmes, ce qui concerne la démocratie participative, tout concerne les citoyens, donc il n'y a pas à limiter, et puis même on n'a pas à décider quels sont les thèmes qui seront abordés ou pas lors d'un référendum, par exemple, d'initiative citoyenne. Donc c'est pas à nous de déterminer quels seront les sujets, c'est aux Persanais de déterminer quels sont les problèmes et quelles sont les choses qu'ils veulent aborder et qu'ils veulent mettre en question. C'est ça la démocratie, c'est que chacun puisse dire ce qu'il a envie de dire et qu'il participe à la mesure de ses moyens dans la construction de ce programme.
À part le référendum local.
Alors, il y a plusieurs autres moyens, comme nommer un conseiller municipal référent de chaque quartier. Alors, pourquoi un référent de chaque quartier? Parce qu'on a remarqué que quand un persané ou une personnaise a une difficulté, elle ne sait pas toujours à qui s'adresser. Et en fonction de la difficulté, on va aller chercher l'élu en délégation de tel ou tel problème. Mais parfois, c'est difficile à savoir quel est l'élu que je dois interpeller selon mon problème. Donc l'idée d'avoir un conseiller municipal référent de chaque quartier, c'est de savoir que quand j'habite les Frénois, c'est monsieur ou madame un tel que je dois interpeller. Quand j'habite le Marais, c'est cette personne-là que je dois appeler. Quand j'habite le village, c'est cette personne-ci que je dois contacter. Et cet élu municipal, puisque je rappelle que de toute façon, les fonctions sont que des délégations, on est responsable de tout quand on est conseiller municipal ou quand on est adjoint au maire, on est responsable de tout à partir du moment où on est élu. En tout cas, c'est comme ça que nous concevons, le mandat. Si on est élu, tout le monde est responsable de tout. Donc l'idée, c'est que ce référent de quartier puisse ensuite interpeller les bonnes personnes pour aider à résoudre le problème. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est d'engager notre présence régulière au comité de quartier. Donc c'est une belle initiative, mais on a remarqué que lors de ces comités, il y avait très peu de personnes et surtout quasiment pas d'adjoints et pas de maire lors de ces réunions. Donc c'est d'engager la présence régulière du maire et de ses adjoints. Et ensuite, c'est de mettre en place un conseil des anciens. et un conseil municipal des jeunes pour que toute la population soit représentée, même les personnes qui ne sont pas encore en âge de voter. L'idée, c'est d'être...
Oui. Pardon.
J'allais dire, l'idée, c'est d'être au plus près des citoyens pour comprendre toutes les problématiques et être des élus accessibles.
Il existe déjà le conseil des citoyens.
Le conseil des citoyens, mais pas le conseil municipal des jeunes, ni celui des anciens.
D'accord.
Et pour info, le conseil des citoyens, j'en ai entendu parler. Il n'y a pas très longtemps, je crois qu'il y a 6 mois de ça, j'en ai entendu parler en effet. Et j'étais très surprise parce que je n'étais pas au courant de l'existence de ce conseil citoyen. Et quand j'ai rencontré les membres de ce conseil, ben, ils m'ont expliqué, oui, on est quelques personnes, on se réunit de temps en temps, mais les objectifs, les buts, enfin, il n'y a pas de cadre en fait. Même les personnes, même les membres ne savent pas trop en fait quel est leur rôle, quels sont les rôles et quel rôle doivent-ils jouer dans ce conseil ? Donc je me dis qu'il y a un manque de construction ou de structuration, mais il faut retravailler ça, quoi.
Est-ce que ces conseils des aînés, citoyens, conseils de quartier, pourront discuter également des orientations budgétaires ou faire des propositions ?
Ah oui, évidemment, puisqu'on vous dit que toutes les décisions doivent se faire en concertation avec les habitants. Le budget, il définit la politique de la ville. Le budget, quand on vote un budget, c'est qu'on est d'accord que tant de subventions ou tant d'argent va aller dans telle ou telle action ou tel secteur. C'est déterminant. Le budget, c'est ce qui détermine notre politique. Donc, évidemment que les gens, les habitants sont invités à discuter et à débattre autour de ça.
Alors, concernant le logement et l'urbanisme, quels sont vos principaux objectifs et propositions ?
Alors, nous souhaitons accompagner les locataires et dans leur démarche auprès des bailleurs sociaux, puisque quand on parle de logement, moi je vais penser surtout aux problèmes d'insalubrité qu'on a pu rencontrer. J'ai visité des appartements, des personnes aînées m'ont ouvert leurs portes, et c'est impressionnant de voir dans quelles conditions aujourd'hui on peut vivre dans certains quartiers de Persan. Donc l'idée, c'est que la mairie et les élus fassent poids auprès des bailleurs sociaux pour que les choses soient faites assez rapidement. J'ai des personnes qui m'ont envoyé des photos avec des rats dans leur salle de bain, des photos avec des moisissures. Ça, il y a aussi des choses où j'ai pu les observer par moi-même. Des appartements où, si vous passez la main sur le mur, vous avez la main remplie d'eau. C'est des conditions en fait de vie qui ne sont pas acceptables. Donc l'idée, c'est qu'on puisse accompagner en tant qu'élu, avoir un poids auprès des bailleurs, et puisque c'est pas nous qui allons résoudre ces problèmes, hein, puisque c'est pas du ressort de la municipalité que d'engager des travaux dans les bâtiments auprès des bailleurs sociaux, c'est leur travail, et puis pareil dans le privé. Mais par contre, on a un rôle à jouer. Je pense qu'on a un rôle à jouer en accompagnant les personnes et les personnes qui sont en difficulté.
Alors, vous proposez la diversité sociale dans tous les quartiers.
Mmh.
Par quels moyens ? Comment ?
Alors, la diversité sociale, c'est rendre accessible en fait ces logements à tous sans distinction. L'idée, c'est qu'on puisse accéder à tous les logements dans Persan dans les mêmes conditions, qu'il n'y ait pas de distinction qui soit faite.
Est-ce que vous avez des grands projets d'urbanisme ?
Ah non, c'est-à-dire ? Ça dépend ce que vous entendez par urbanisme. Si c'est des constructions, non, à part le complexe sportif qu'on aimerait bien, oui, en effet, voir naître. Nous, ce qu'on veut, justement, c'est ralentir cette urbanisation frénétique. Hein. Il faut qu'on mette à niveau, les structures municipales avant d'envisager une augmentation de la population. Là, on étouffe en fait sur Persan. On étouffe. Hein. Donc il faut essayer de faire avec ce qu'on a et augmenter, oui, les places d'accueil. Et puis pour éviter justement de nouvelles constructions en ce qui concerne le pôle enfance, par exemple, vous allez me dire comment vous allez faire pour augmenter les places du pôle enfance sans construire. Eh bien, en fait, on a des bâtiments municipaux qui s'appellent les écoles. Et ces écoles, elles sont tout à fait adaptées pour accueillir les enfants en périscolaire. Donc ça a été fait depuis septembre, là je suis bien contente, moi ça fait 3 ans que j'en parle, que j'en discute, que j'en parle même au pôle enfance en disant mais pourquoi vous accueillez pas sur les... Donc je suis bien contente que ça se fasse. Donc depuis septembre, en effet, les enfants sont accueillis le matin et le soir sur leur école. Maintenant, il faudrait pouvoir étendre cet accueil sur les vacances scolaires, ce qui permettrait d'accueillir tous les enfants persanés au centre de loisirs. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on veut inscrire son enfant au centre de loisirs, en effet, il y a une priorité, et je la comprends, hein, aux parents qui travaillent, puisque c'est un système de garde, c'est comme ça qu'il est conçu aujourd'hui. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que le centre de loisirs ne soit plus un système de garde, mais soit un vrai lieu d'accueil pour permettre aux enfants de passer, pour ceux qui ne partent pas en vacances, surtout de passer des moments d'échange avec des camarades, d'apprendre de nouvelles choses, de s'épanouir en collectivité. Pour nous, ce n'est pas juste un lieu de garderie.
Qu'entendez-vous par mieux vivre ensemble et se respecter ?
Alors, mieux vivre ensemble et se respecter, c'est ce qu'on abordait tout à l'heure quand on disait les problèmes d'incivilité, les problèmes d'insalubrité, les problèmes de propreté au niveau des rues. Et c'est vrai que là, du coup, on ne vit pas bien ensemble. On ne vit pas bien quand on a ses voisins, son jeune voisin qui jette, qui fait du bruit. Mais le problème, c'est qu'on ne se connaît plus. Alors que si on remonte quelques années en arrière, 40, 20 ans, je ne sais pas, mais les gens se connaissaient. Donc il y avait un respect mutuel parce qu'on connaissait le voisin, on connaissait, c'était des amis, les enfants de machin, je le connais. Et le fait de se connaître, en fait, ça instaure le respect, ça instaure plein de choses. Et ça, c'est ça le vivre ensemble, c'est apprendre à se connaître pour mieux se respecter. Et c'est un cercle vertueux, en fait. Donc, il faut remettre en place des choses qui vont permettre aux gens de se rencontrer, de sortir de leur habitat. Moi, j'ai croisé des personnes qui m'ont dit qu'elles ne sortaient plus de chez elles, même des personnes âgées, parce que, c'est pour faire quoi ? On m'a dit, pour faire quoi dehors ? Donc, l'idée, c'est d'essayer de créer de la vie, de mettre de l'animation. Comme je vous disais tout à l'heure, par exemple, on a un conservatoire, donc pourquoi pas jouer un petit peu dehors de temps en temps, permettre aux familles de se poser sur des bancs, sur un petit muret, discuter, échanger, apprendre à se connaître. Et je pense que plus on apprendra à se connaître, et moins il y aura d'incivilité, et plus il y aura de respect entre les gens.
Alors, dans votre programme également, vous proposez de lutter contre toutes les formes de racisme et de discrimination, et agir en faveur de l'égalité homme-femme. Et LGBT.
Oui, tout à fait.
Quels
moyens ? Toujours la même réponse, j'ai envie de vous dire. Voilà. Alors, il y a les associations, comme l'association du côté des femmes qui offre sur le territoire et avec qui on peut facilement collaborer, qui est déjà venue sur Persan faire des conférences sur les violences faites aux femmes. Mais pas que, mais je pense qu'il faut en effet utiliser les associations qui fonctionnent bien, qui ont besoin de moyens.
MJC également.
Également, tout à fait. Donc toutes ces associations qui œuvrent là-dedans, il faut les aider, il faut les accompagner. Et je pense que de toute façon, ce sont les professionnels qui sont au cœur de ces problématiques-là, qui les vivent au quotidien, qui peuvent nous aider à trouver des solutions. C'est comme pour le handicap. Les violences faites aux femmes, quand on est à l'extérieur, comme ça, c'est compliqué. Comment on fait pour aider ces femmes-là ? Moi, j'ai eu c'est des choses horribles qui se passent. C'est que la justice, la loi, elle n'est pas faite pour protéger correctement les femmes malgré tout ce qui a pu être mis en place. Mais aujourd'hui, quand une femme a un souci avec son compagnon, la seule solution, souvent, c'est de fuir avec ses enfants. Mais quand elle fuit avec ses enfants, elle se retrouve dans l'illégalité puisque ça s'appelle un enlèvement, du coup. Cette femme, elle protège sa vie. Donc, c'est vrai qu'il y a un conflit entre la réalité, entre les lois et... Et donc nous, on va essayer avec les moyens qu'on a au niveau de la municipalité, puisque on n'est pas non plus dans une démarche nationale, on est une démarche locale, mais en tout cas avec les moyens qu'on a, aider les associations qui œuvrent en faveur de ces actions-là, quoi, pour faire en sorte que ça fonctionne et qu'elles ne soient pas arrêtées par des problèmes matériels. Donc s'il faut mettre à disposition des locaux, on mettra à disposition des locaux. Si il faut des moyens humains, on fera ce qu'il faudra pour les aider, mais c'est impératif de travailler à réduire tous ces problèmes de violence et d'inégalité.
Comment, si vous êtes élu, entendez-vous financer la mise en œuvre de votre programme dans le contexte financier si difficile pour les communes dont Persan ?
Alors, le budget de la ville de Persan, qu'on soit élu ou qu'on ne le soit pas, sera le même. Donc ce sera le même. Donc à nous de faire avec le budget qui nous est imparti, on ne va pas non plus dépenser des sommes qu'on n'a pas. Donc on va répartir en fonction de nos priorités. La première priorité, c'est la santé. Et comme je vous l'ai dit, le centre municipal de santé ne coûtera que la mise à disposition des locaux. Donc ça, c'est le plus gros chantier que l'on souhaite faire. Ensuite, le complexe sportif, il n'est pas... on va avoir des aides du département pour ce type d'établissement. Et puis, pour tout ce qui est collège, parce que je crois qu'on n'a pas parlé du collège aussi. C'est de façon, c'est pas du ressort de la municipalité. Mais pour faire court, le budget qui va nous être... le budget de la municipalité, il restera le même, peu importe qui sera élu. Donc, à nous de faire en sorte de financer nos projets avec ce budget-là. Il est évident qu'on ne va pas dépasser les sommes d'argent qui sont allouées à la ville de Persan. Maintenant, il y a des aides de l'État, il y a des aides aussi, il y a des aides européennes auxquelles on peut faire appel. Donc, nous, on sollicitera toutes les aides possibles pour permettre de mettre en place notre projet sur la ville de Persan. Mais on ne fera pas n'importe quoi avec le budget de la ville.
Encore une fois, le Rassemblement national n'a pas été en mesure de constituer une liste. Ne craignez-vous pas une abstention massive de ces électeurs habituels qui se sont détournés de la gauche ? Quel message souhaitez-vous leur transmettre ?
Alors, je pense que sur une élection municipale, le Rassemblement national... quand le Rassemblement national fait un bon chiffre aux élections, c'est en général aux élections nationales. Parce que c'est un ras-le-bol de ce qui se passe en ce moment. C'est un ras-le-bol de la politique qui est menée depuis 2017 par M. Macron. Donc forcément, quand on en a un petit peu marre, on vote un peu aux extrêmes. Donc moi, je ne m'inquiète pas de l'abstention de tel ou tel mouvement politique. Là, ce qui m'inquiète pour le moment, c'est de savoir comment les gens réagissent par rapport au problème viral qu'on a en ce moment. Est-ce que ça va freiner ou pas les gens pour aller aux urnes ? J'ai discuté avec les gens... Ils n'ont pas l'air plus inquiets que ça. Ils prendront leurs précautions, ils se laveront les mains, mais ils viendront voter. Maintenant, les élections municipales, c'est des élections auxquelles, en général, les citoyens participent plus activement, comme pour les nationales. Donc, je ne pense pas qu'une abstention sera liée au niveau du Rassemblement national. Donc, les militants, les citoyens qui votent Rassemblement national aux présidentielles, aux législatives ou aux européennes, pour une élection locale comme celle-ci, ils vont voter pour un programme. Donc, ils vont choisir le programme qui leur parle le plus et dans lequel ils se projettent. Je pense qu'on n'est pas du tout dans la même démarche.
Et enfin, si contrairement à 2014, il y a un deuxième tour, des accords de fusion des deux listes de gauche ont-ils déjà été conclus ?
Pour le moment, non.
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 Leïla Saïb, merci.
Je vous remercie.